puissance et attribuer le deuxième commandement du Décalogue concernant de la paix. Tout le monde connaît ce passage, réduit, quand vous aurez l'occasion de le développer. Tu ne feras pas d'image. On ne peut pas parler d'esthétique et de judaïsme sans évoquer ce passage, évident. Oui, j'étais intrigué. Parce que depuis mon enfance, j'avais toujours aimé les images comme tous les enfants. Et de plus, j'ai pour vocation de tracer des formes, de modeler, de peindre, de faire des images. Le dessin est devenu, en quelque sorte, une seconde écriture, moyen de notation, de communication et d'expression. À l'école Gilbert Bloch, il y a 35 ans, j'ai pris l'habitude de fréquenter les valeurs de la tradition et de considérer avec intérêt les problèmes qu'elles posent. Dès lors, je devais nécessairement tomber sur la question du judaïsme face aux valeurs esthétiques. Dans la confrontation des valeurs esthétiques avec les valeurs hébraïques, les arts plastiques tiennent une place à part. Le second commandement, une frappe d'image qu'on vient d'évoquer, semble déterminant quant aux idées que nous nous faisons habituellement sur les rapports de la tradition juive avec les arts de l'espace, c'est-à-dire culture, architecture, peinture, gravure, etc. Et urbanisme à rigueur, comme il est, on va y revenir, tout ce qui concerne l'esprit. Pourtant, les rabbins sont unanimes. L'interdit concerne l'idolâtrie et la représentation de la divinité, et en principe, rien d'autre. J'ai remarqué que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet, la preuve. C'est un fait. Aujourd'hui, on écrit des thèses. Il existe des chaires d'esthétique en Israël. En l'espace de 2 ans, j'ai assisté à un nombre très important de réunions de ce type sur des sujets de même nature, sans descendre. Je me suis posé la question, pourquoi tout à coup, il y a un intérêt pour ce type de problème. Parce qu'il faut bien vous dire, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ça fait quand même 30 ans que je suis intéressé. Mais il y a 30 ans, je ne trouvais personne comme interlocuteur. Ça n'intéressait que peu de monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, pour un sujet aussi, insolite, certainement pas, mais il est possible de réunir plusieurs manifestations, etc., comme il y en a eu sur tradition et créativité, enfin vous avez vu des affiches peut-être aussi. Parce que jamais on a consommé et fabriqué tant d'images. Et les idoles de nos enfants, parce que jamais on a consommé et fabriqué tant d'images qu'aujourd'hui. Les idées, les modes, les modèles, nos héros et les idoles de nos enfants, idoles en tout lieu, mais j'entends bien, je veux dire, les choses qu'ils aiment, nous parviennent par les images. L'image est la langue planétaire qui façonne et efface les différences de culture. Même les expositions d'art expriment cette unification des langages. On peut s'en plaindre ou s'en féliciter. C'est les mêmes formes d'art qui ont cours à New York, Paris, Tokyo, Brasilia. Au niveau des formes, on est entré dans un monde pré-babélique. Pré-babélique, ça veut dire un monde où il y a langue unique, où les images font ce que
sont un facteur d'unification, pas d'unité, j'ai dit d'unification, dans le sens de, peut-être plutôt de nivellement, dans le sens d'effacement des différences, où tout le monde semble parler la même langue. Au seuil de l'ère électronique, à la veille de la réalisation du village planétaire évoqué par McLuhan, c'est-à-dire dans un monde où les informations et les images nous rendent instantanément familiers à tout ce qui se passe ailleurs. C'est ce qu'il appelle, McLuhan, appelle le village planétaire. S'intéresser aux formes et aux images est une manière de se poser la question du rapport qui existe aujourd'hui entre la culture de masse et nos identités particulières. Entre un monde aux formes de plus en plus indifférenciées et notre profonde et irréductible réalité intime. Le judaïsme passe aux valeurs esthétiques. Les valeurs esthétiques, au fait, qu'est-ce que c'est? Avant de développer, en somme, les grandes lignes de cet exposé, quand même, je vais me rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais être plus précis. C'est l'art des musées, bien sûr, et des galeries, évident. Mais c'est aussi l'art d'aménager le cadre de vie et celui d'aménager l'espace des villes, des campagnes, l'architecture, la beauté formelle des objets utiles. Ça aussi, c'est du domaine de l'esthétique. L'esthétique est un moyen de culture, de divertissement. Mais l'art peut devenir une arme dans la main du pouvoir. Propagande, moyen d'oppression sur les esprits. L'esthétique façonne les modes, les modèles, les héros qui influenceront nos comportements et ceux de nos enfants, j'en ai parlé tout à l'heure. L'art plastique peut être un merveilleux outil pédagogique, moyen d'expression de soi et parfois thérapeutique, qui délivre et qui guérit. En somme, la meilleure ou la pire des choses. L'image peut emprunter la forme du veau d'or ou celle des kéroubim, du tabernacle, du mishkan. C'est, dit-on, entre les chérubins face à face, que descendait la Shrina, c'est-à-dire la présence de Hachem, de l'Éternel. Et ces chérubins, à visage humain, étaient placés sur le couvercle de l'arche, boîte, dans laquelle étaient déposées les 10 paroles, les 10 commandements, où il était écrit « Tu ne feras point ». Et d'image. Pour clarifier mon propos, j'ai articulé mon exposé en 4 points. Le premier, la ferveur juive et la beauté. En d'autres termes moins ramassés, comment les rabbins ont-ils réagi devant le fait esthétique depuis 2000 ans? Le deuxième, conception hébraïque de la créativité. Le troisième, à la recherche d'un style hébraïque. Et le quatrième, de loin le plus délicat, que j'étais tenté de ne pas introduire, c'est utopie.
la ferveur et la beauté. Comment les rabbins, depuis 2000 ans, ont-ils réagi devant le fait esthétique? Nous allons nous demander si la beauté est une valeur parmi les valeurs traditionnelles. La première question, d'abord, est-ce que beauté, dans le sens conventionnel du terme, est-ce que ça, c'est une valeur dans la tradition? Question. Dans le livre du commencement, Bereshit, quand Dieu réalise le milieu, l'environnement, dans lequel il va placer Adam, il fait surgir du sol, comme dit le texte, toute espèce d'arbre beau à voir et propre à la nourriture. Kol Eitz Nechmad, le marais, Vetov, le Mahal. Parmi les qualités, les attributs de Dieu, se trouve la notion de chen, qui désigne une relation de grâce. C'est cette valeur ajoutée qui fait qu'une orange n'est pas seulement un fruit sain contenant vitamines, mais aussi une superbe sphère dorée au goût succulent. Chen, c'est bien cette dimension du monde créé qui donne du goût et de la saveur à la vie. On dit aussi ta'am, ta'am. C'est un terme qui fait quand on dit que quelque chose, c'est intraduisable, intraduisible en français, quand on dit quelque chose, ça a quelque chose, on dit ça du ta'am, et ça du chen. Si chen exprime l'amour et la grâce que Dieu a mis dans sa création, on pourrait dire que Hidur, le Hidur Mitzvah, est la notion qui traduit l'amour, la beauté que l'homme introduit dans le monde qu'il conçoit au service de Dieu. Au service de Dieu, Avodat Hashem. Toutes les collections de nos musées d'art juif expriment la ferveur de nos ancêtres à travers des objets du rite, des enluminures, des manuscrits, et que tout botte des agadotes, des plaques sétères, des menorotes. C'est-à-dire, je ne veux pas décrire les objets en eux-mêmes, ce sont des objets qui font partie de la vie rituelle du judaïsme. Depuis le contrat de mariage, en passant par le chandelier à sept branches, en passant par le livre de la Haggadah qu'on lit la nuit pascale, en passant l'odeur du début, du samedi soir, le verre dans lequel on met le vin, vendredi soir, etc. Mais si une remarque importante s'impose, ces traces de l'art juif, qui s'étendent sur plus de 2000 ans, sont le reflet fidèle de l'esthétique des civilisations dans lesquelles les Juifs ont séjourné. Étudier l'enluminure, les manuscrits hébreux, par exemple, c'est embrasser en même temps une grande part de l'histoire de l'art chrétien et de l'art de l'islam. Et là, il faut que je sois précis. Il n'y a à proprement parler pas de style spécifiquement hébraïque. Il existe un art égyptien. Quand je dis l'art égyptien, tout le monde voit ce que c'est. L'art des Aztèques. Nous pouvons très bien imaginer. Malraux, il a très bien dit que nous avons chacun maintenant un musée imaginaire, c'est-à-dire, je dis l'art des Aztèques, nous voyons immédiatement à quoi peut se référer ce langage plastique, ce style propre qu'est l'art nègre, par exemple. L'art chrétien du roman, l'art chrétien gothique, nous voyons très bien qu'il s'agit là de langues, de styles très spécifiques. Il n'y a pas de commune mesure dans le langage des formes. Pas de commune mesure, je veux dire, pas de similitude. Enfin, il y a des similitudes, mais je veux dire, il y a une grande différence entre l'art égyptien qui s'étale sur 3000 ans d'histoire de l'art, et puis l'art grec. Il y a une grande différence. Mais une plus grande différence encore entre l'art grec et l'art noir, et l'art nègre, les masques nègres, les statuaires du Bénin, enfin, je veux dire. Il y a une différence. Il n'y a pas de style hébraïque de la forme. Ça, c'est quelque chose d'unique. Ça veut dire que c'est un phénomène en soi. Toutefois, une exception, mais elle est de taille, c'est l'art de la typographie, de la mise en page, et l'art de la lettre hébraïque. L'architecture d'une page du Talmud se présente comme une véritable polyphonie typographique qui traduit visuellement une constellation de sens autour d'un texte central. Maintenant, nous allons revenir à nos considérations précédentes. Il y a un contraste entre la richesse de la tradition juive, la richesse écrite et orale, et la modestie de ses réalisations plastiques. C'est un fait. Il y a au moins, parce qu'il y en a une que je laisse de côté, nous amènerait dans un domaine que je ne veux pas traiter du tout pour le moment, trois raisons essentielles. La première, historique. Les conditions d'instabilité de l'exil. Ça, c'est la première raison. Deuxième, l'interdiction faite aux Juifs de pratiquer un certain nombre de métiers à travers toute l'histoire, à travers des centaines et des milliers d'années. Troisième, évidemment. Le troisième serait des facteurs liés à certains aspects de la philosophie religieuse hébraïque. J'aime cette explication de type hassidique où il est dit que Dieu a dispersé Israël à travers le monde afin que son peuple recueille les formes des autres civilisations pour les rendre kadosh. Comme jadis les vases d'or des Égyptiens ont servi à la confection des objets du tabernacle. J'ai fini cette première partie et je commence la seconde sous la rubrique créativité et tradition. Comme nous venons de le voir, il n'y a pas, semble-t-il, un style hébraïque, mais par contre, de la Torah se dégage une forme particulière de la créativité. Il existait le mot productivité, mais le mot créativité n'apparaît dans nos dictionnaires qu'aux environs des années 1970. Mais ce mot, en même temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en même temps que le public commence à s'intéresser à ce type de problème, c'est en même temps que le mot créativité a été nécessaire. Et j'ai une collection un dictionnaire du XXe siècle chez moi, acheté en 64.
C'est ça ?
Il n'y a pas le mot créativité. Le petit Robert de 65 ne contient pas le mot créativité.
Bon, donc il y a là une notion qu'il faut expliquer, et comme il y a là un terrain vierge, chacun peut l'interpréter un peu à sa manière. Mais, disons, pour être bref sur ce sujet, je vais quand même essayer de donner ma définition.
Il y a d'une part le sujet qui crée, c'est-à-dire l'artiste, le créateur, vous savez. Vous avez l'objet créé, c'est-à-dire l'artiste, il est devant une terre, de l'argile, et son œuvre, c'est l'œuvre. Ça, c'est l'artiste, et ça, c'est l'œuvre. Quant à la créativité, elle concerne le processus, c'est-à-dire la manière dont le rapport qu'il peut y avoir entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire, la créativité serait le mode de relation qui s'établit entre le sujet qui crée et l'œuvre en cours d'exécution. Il y a la créativité. C'est ça. Je ne veux pas développer trop cette définition. On n'est pas là tellement pour ça. Mais il fallait quand même en parler. Il y a en tout cas la créativité de Dieu. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la créativité de l'homme. Eh bien, je vois trois types de créativité dont je vais parler. J'utilise ce terme, peut-être à bon ou à mauvais escient, pour ne pas m'en vouloir de trop, mais il m'est commode. Ah, il y a trois. L'homme ne doit pas intervenir dans la création. Ça, c'est une créativité qui est... Voilà. Qui se retire. Qui n'intervient pas. Qui ne s'exprime pas. Du moins, en tout cas... L'homme qui est maître de la création et l'homme, et quand l'homme est associé à la création. Je vais être un peu plus précis. L'homme ne doit pas intervenir. Ah, voilà, je m'excuse, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Face au créateur de toutes choses, l'homme peut adopter trois attitudes différentes. C'est ça que je voulais dire. On comprendra mieux ce que je veux dire. Je répète. Face au créateur de toutes choses, l'homme peut adopter trois attitudes différentes. L'homme ne doit pas intervenir dans la création. Première situation. L'homme est entièrement dans les mains de Dieu. Ce qui arrive devait arriver. C'est le fatalisme. Ce que Dieu a créé est bien. Et tout ce qu'on a introduit en plus dans ce monde est blasphème. Tout nous vient du ciel. C'est une attitude. Deuxième thème, possible. L'homme est maître de la création. Dieu, un jour, a créé le monde, mais aujourd'hui, le monde est entre les mains de l'homme. La créativité de l'homme, dans cette perspective, n'a pas de limite et ne saurait souffrir de limite. Et je pense que on peut dire que certains aspects de la civilisation occidentale sont assez le reflet de cette créativité qui souffre non par manque de créativité, mais par une créativité non maîtrisée. L'homme est associé, alors la troisième, l'homme est associé à la création, au créateur. Alors il s'exprime à l'ombre de la révélation. Devinez de quel cas il s'agit. La liberté de créer s'exprime à l'ombre de la loi, dans le judaïsme. Nous ne disposons pas du monde comme un propriétaire dispose de son bien, mais comme un locataire qui aurait loué un champ pour le faire fructifier. Nous devons nous investir dans la créativité, je parle des juifs, mais ne pas être dominés par elle. En gros, c'est une définition qu'on peut discuter, mais... Je l'exprime comme ça, dans ce contexte-là. Mais on va y revenir de manière beaucoup plus traditionnelle. Il est temps maintenant de lire vraiment en entier le fameux verset, le fameux passage, le deuxième verset de les dix commandements, la deuxième commandement, les deuxièmes paroles, il ne s'agit pas de commandement, mais plutôt de brotte, de commandement, de paroles. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre, pardon. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras. Lo yiye lecha, Elohim acherim, l'autre Dieu, alpanai. Lo tase lecha, à toi, Bessel, vekol temuna, asher bashamayim, imaal, asher baaret. Je m'arrête là, mais ce commandement est tellement important, c'est le plus long de tous les dix. Je vais quand même aller jusqu'au bout, parce que ce serait... Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma surveillance à la millième de ceux qui m'aiment et regardent les commandements. C'est véritablement des paroles qui sont très dures vis-à-vis de leur passé. Nous n'allons pas analyser cette dernière. Nous nous sommes intéressés à la question suivante. Quelle est l'attitude des trois religions issues d'Abraham devant ce commandement? C'est-à-dire, je fais allusion à l'islam, au christianisme et au judaïsme. Il est un fait que cette Bible, qui est traduite dans toutes les langues du monde et qui a donné des religions variés que l'islam, le christianisme et le judaïsme, eh bien, ils ont une attitude totalement différente devant ce deuxième commandement. Dans l'art de l'islam classique, je précise quand même classique, parce qu'il y a, des, comme dans tout ce qui est religieux, il y a des familles, des variantes, et toutes sortes de courants. Mais enfin, disons, ce que nous connaissons de l'orthodoxie, et je précise quand même, parce que c'est documenté sur ça, je ne suis pas spécialiste, mais disons, il y a une exception très remarquable, l'exception, c'est les chiites, précisément, en Iran, qui, eux, se manifestent par une iconographie extrêmement riche dans le domaine des enluminures. Mais à part ça, en Arabie et en Afrique du Nord en particulier, sommes familiers d'un certain style de l'islam. La représentation humaine et animale, dans l'art islamique classique, la représentation humaine et animale est presque absente de la décoration. Et la représentation de Dieu est interdite. Cela est peut-être dû à une philosophie religieuse qui porte l'accent sur le fait que tout serait entre les mains de Dieu. Que les créations figuratives s'apparenteraient en quelque sorte à un manque d'humilité face au créateur de toutes choses. Manière supérieure de comprendre le fatalisme. Le christianisme, quant à lui, n'impose aucune limite à la figuration. La foi en un Dieu qui s'est fait homme a permis au christianisme de devenir l'héritier des artistes grecs et romains. L'art chrétien s'est totalement affranchi des réserves évoquées dans le deuxième commandement de la Bible. Il n'y a pas de limitation. Dieu s'est fait homme, et l'homme peut faire Dieu dans le sens de figure. Pour le judaïsme, la figuration de la nature est permise. Seules sont interdites les représentations de la divinité. Et les objets en vue d'idolâtrie, de tout acte d'idolâtrie, bien sûr. Sa philosophie religieuse se résume donc succinctement comme suit. Le Créateur attend de l'homme qu'il assure l'achèvement de la création, mais lui impose une limite à sa créativité. En particulier, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, celui du Shabbat. Par le chômage obligatoire du septième jour. Par le sabbat, l'homme doit témoigner qu'il est capable de dominer son élan créateur sous peine d'être dominé par lui. L'homme, ici-bas, doit s'investir, mais en même temps être capable du retrait et de la distance avec le monde de la création. Dieu lui-même donne cet exemple en manifestant sa créativité, durant six jours, en opérant ce retrait ou cette retraite, le septième, en effet. Tout juif pratiquant sait ce qui est écrit dans son kiddush du vendredi soir et dans son kiddush du Shabbat matin. De toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le septième jour. Il se reposa, septième jour, de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en lui, il se reposa de son œuvre entière que Dieu avait créé en la faisant intraduisible, évidemment, et mal traduit en plus, mais ça finit par le mot « la'asot ». C'est un commentaire classique et traditionnel que « la'asot », ça signifie, dans ce cas-là, « Asher bara Elohim la'asot », il a fait tout ça, il a fait toute la création, « la'asot » pour qu'elle se fasse encore. C'est une création qu'il a voulu inachever. Et pourquoi ? Pour que précisément l'homme puisse l'achever. La manière dont Dieu crée le monde, il le crée en s'arrête, parce qu'il aurait pu créer sans arrêt, en continuité, il s'arrête en discontinuité, et c'est là la notion de créativité qu'on a vue à l'origine, au début. Pour que l'homme, à son tour, puisse créer. La asot. Le Shabbat a une autre dimension. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en célébrant le Shabbat dans toute leur génération comme un pacte éternel entre moi et les enfants d'Israël. Il sera un symbole immuable attestant qu'en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et le septième, il a chômé et s'est reposé. Et là, il est dit « Ubiom hashevi, Shabbat baina pash » Baina pash, Shabbat, on sait ce que c'est. Se reposer dans le sens doré, baïna fâche, ça vient de nefesh, ça veut dire qu'il s'est ressourcé. En somme, Dieu, là, il nous montre le rythme créatif propre à l'être d'Israël. Bien. Je ferme cette partie. Et j'attaque une autre. Là, j'ai parlé. Il s'agit maintenant de l'artiste dans la Torah. Bien sûr, on pense immédiatement à Bezalel. L'artiste, un des artistes dont il est question dans la Torah, s'appelle Bezalel. Toute la symbolique de la Torah, toute la mystique juive, le monde des prières et les supports conceptuels des kabbalistes se fondent sur les mesures, les formes, les couleurs, les matières qui sont utilisées pour la réalisation du tabernacle du désert et le temple de Jérusalem. Or, celui qui a donné corps à ce monde symbolique, c'est Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il est comme dit le texte, Exode chapitre 31, rempli d'une inspiration divine d'habileté, de jugement, de science et d'aptitude pour tous les arts. Les artistes qui l'aident sont appelés Chachamlev. Ils ont une qualité, c'est la Chochmaslev, la sagesse du cœur. Et alors là, c'est très intéressant. Je ne parle pas de Bezalel. Bezalel, on dit de lui qu'il avait un pouvoir que Moshe Rabbeinu n'avait pas. C'est-à-dire, Moshe, on lui a révélé la forme de la menorah dans une vision, et c'est dans le texte. Ça, c'est comment dire. Mais il n'avait pas le pouvoir de concrétiser la forme. Bezalel l'avait. Bezalel, donc, je le mets de côté. On ne peut pas comparer quelque chose qui obtient la classe, qui sort de l'ordinaire. Il y a roi à Kodesh, mais les aides, les artisans autour d'eux, ils avaient une qualité. Et le texte insiste pendant 3 ou 4 chapitres, j'ai pas compté le nombre de fois, ça revient, Chachamlev, Chochmaslev, sans arrêt. Alors, cette qualité est exigée de tous ceux qui participent à la création du tabernacle, dans ces détails. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Chochmaslev, ce Chachamlev? Cette notion, c'est la sagesse, Chacham, c'est que c'est un chochma. Cette notion, cette sagesse du cœur, lève, c'est le cœur, nous paraît très intéressante parce qu'elle associe précisément ce qui s'est éclaté dans notre civilisation. La notion de chacham, chochma, signifie sagesse, intelligence, science, connaissance, conscience. Lève le cœur, désigne le sentiment, la sensibilité, l'énergie. L'association de ces deux concepts en un seul terme est significative. Un des aspects d'une certaine crise de l'homme en Occident, c'est d'avoir placer la créature dans un décor, au milieu de structures où le fonctionnel, le rationnel, fait face à un homme de plus en plus aliéné dans son équilibre. L'art moderne est rempli d'un cri, parfois de désespoir, et d'une sensibilité exacerbée, s'exprimant souvent par les soubresauts de l'instinct à l'état brut. La Chochmaslev, finalement, c'est une des modalités du Yichud, de l'unité, du monothéisme. L'unification entre la partie haute, les chassidim y mettent une ceinture entre les parties hautes et les parties basses. Mais dans cet esprit, c'est pas une séparation du type de celle que nous venons d'exposer. C'est bien au contraire tout le travail qu'il faut à l'homme pour arriver à cette unification. Or, notre civilisation témoigne d'expressions totalement dissociées, d'une sorte de schizophrénie qui fait éclater ces deux aspects de l'homme. Et peut-être que les problèmes individuels et collectifs et des sociétés sont peut-être dus à cet aspect. Je passe donc à la troisième. Et il s'agit, j'ai intitulé « À la recherche d'un style hébraïque ». Alors là, nous changeons complètement de domaine. En Occident, les murs des ghettos sont tombés. Se libérer des entraves culturelles du ghetto n'est plus, je pense, un terrain de conquête pour notre jeunesse ou les générations actuelles. C'est fait. On ne peut pas abattre une ville dont les murs sont tombés. Le problème culturel qui se pose à nous, comme à d'autres ethnies, c'est comment renouer avec nos racines et nos valeurs. C'est ça notre problème. C'est ça le problème des générations qui vont venir. Nous, on est encore, nous vivons encore, nous vivons encore avec ce combat dans, dans notre mental qu'il faut s'affranchir. Mais pour les jeunes déjà, on sent dans le, et cette question qui prend tout à fait une autre signification que pour nous à l'époque. Le problème culturel qui se pose à nous comme à d'autres ethnies, j'ai déjà dit, c'est comment renouer avec nos racines et nos valeurs. Sur le plan artistique, l'art des Juifs de l'émancipation, la partition des Modigliani, des Pissarro, des Chagall, est l'aboutissement de 4000 ans d'histoire de l'art occupée essentiellement à la fabrication des dieux. De l'art qui fabrique les images des divinités, au XIXe siècle, on passe à l'art comme moyen d'expression de l'individu. Il y a là un virage considérable, une révolution culturelle qui est extraordinaire. Pendant 4000 ans, l'art est entièrement au service des divinités. Et à partir du moment où on a coupé la tête de Louis XVI, eh bien, il s'est passé quelque chose d'extra, enfin, de considérable, très important, qui fait que de la déification des dieux, on passe à l'expression de l'homme. Cette révolution culturelle considérable a permis aux Juifs de se manifester brusquement, de façon massive et parfois géniale, dans un domaine où il n'y avait pas d'existence de présence juive pendant des millénaires. Vous pensez à la première partie de mon exposé, où j'ai souligné, je crois, et j'ai insisté, qu'il y a un reflet, même dans les objets d'art, un reflet de l'islam, de la chrétienté, de la Chine, de l'Italie. Pas de traces d'écriture hébraïque. Et tout à coup, et même j'ai un livre là, où on explique que les objets rituels, souvent, ont été fabriqués par des non-juifs, des artisans, sous la dictée des rabbins. Si peu il y avait les conditions propices à une expression hébraïque. Et pendant des centaines et des milliers d'années, ce problème a des formes différentes. C'est